Journal présenté ce matin par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La volte-face de l'Iran ce matin, Téhéran reconnaît avoir abattu l'avion ukrainien dont le crash a fait 176 morts mercredi. Analyse à suivre avec Bertrand Galichet.
À Taïwan, des élections présidentielles et législatives ont lieu aujourd'hui.
C'est la présidente sortante pro-démocratie qui est donnée largement favorite, alors que la situation à Hong Kong marque fortement cette élection scrutée de très près par Pékin, nous dira notre envoyé spécial à Taïwan, Dominique André.
Il faudra attendre la lettre d'Edouard Philippe au syndicat ce matin pour connaître les mesures concrètes promises par le Premier ministre sur la réforme des retraites.
Oui, alors qu'une nouvelle journée de manifestation est prévue aujourd'hui à l'appel de l'intersyndicale. Analyse à suivre avec Anne-Laure Jumet. Le chef de l'État, lui, s'est exprimé hier devant la Convention citoyenne sur le climat. Les 150 citoyens tirés au sort qui doivent trouver des solutions socialement justes contre le réchauffement climatique. Emmanuel Macron a promis à nouveau d'utiliser le résultat de cette convention pour un référendum. Et puis, votre invité, Caroline.
Jean-Pierre Chevènement, ancien ministre et président de la Fondation Respublica, il ne devrait plus tarder, en tous les cas, nous l'espérons.
L'Iran a reconnu finalement ce matin être responsable du crash de l'avion ukrainien qui a fait 176 morts mercredi. Jusqu'ici, Téhéran rejetait cette hypothèse d'un tir de l'un de ses missiles et dénonçait une propagande des États-Unis et des pays occidentaux. Le Boeing 737 a été touché quelques minutes seulement après son décollage de l'aéroport international de Téhéran. Mais il s'agit d'une erreur humaine, insiste l'armée iranienne. Et sur les réseaux sociaux, le président iranien Hassan Rouhani parle d'une erreur impardonnable. Téhéran qui s'excuse, mais pas seulement, Bertrand Galichet. L'Iran pointe également du doigt les États-Unis.
Par la voix du ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, le régime des Mollahs, en reconnaissant sa propre responsabilité, implique immédiatement Washington en parlant d'une erreur humaine en des temps de crise causée par l'aventurisme américain. Une référence à l'assassinat le 3 janvier du général Soleimani, éliminé sur ordre de Washington et qui a entraîné une riposte iranienne contre des bases américaines en Irak. Le scénario correspond donc à ce qui a été dévoilé ces derniers jours par le Canada est confirmé par le Royaume-Uni. Le Boeing ukrainien a été pris pour un avion hostile et visé par un tir de missile dans une séquence où l'Iran pouvait craindre des représailles de Washington. Les Iraniens, là encore, tentent d'atténuer leurs responsabilités en expliquant que l'appareil s'est approché d'un site militaire sensible appartenant aux gardiens de la Révolution. Téhéran confirme donc une erreur humaine et parle de désastre. L'Iran, qui présente des regrets, des excuses et des condoléances aux familles des victimes et aux nations concernées, promet que les fautifs seront traduits devant un tribunal militaire. Et si les plus hautes autorités iraniennes ont nié leur implication dans un premier temps, tout en ouvrant la voie à une enquête menée par des étrangers, c'est sans doute parce que des responsables militaires d'un rang élevé ont menti aux autorités politico-religieuses par crainte des conséquences dans un régime où la répression interne est féroce.
Bertrand Galichet, le Premier ministre canadien Justin Trudeau, demande que les responsabilités soient établies alors qu'on recense désormais 57 Canadiens parmi les victimes et non pas 63 comme les autorités l'avaient précisément annoncé au début. La majorité des victimes sont iraniennes. On compte aussi 10 Suédois, 4 Afghans, 3 Allemands et 3 Britanniques. Les tensions irano-américaines seront au cœur des discussions à Moscou aujourd'hui entre la chancelière allemande Angela Merkel et le président russe Vladimir Poutine. L'Iran doit tirer les leçons de ce tir de missile sur un avion de ligne, selon un haut responsable russe ce matin. Le président ukrainien, lui, exige la punition des coupables et des compensations. Jean-Pierre Chevènement est notre invité juste après
ce journal. Il est en train d'arriver. Il enlève sa veste, il enlève son chapeau. Peut-être avancer quelques temps dans votre journal, Sophie. Puis on reviendra à Jean-Pierre Chevènement pour l'entendre réagir sur le Moyen-Orient quand il sera installé.
Bien sûr, ce sera votre invité juste après ce journal, Caroline, dans les matins du samedi. En attendant, nous faisons un petit tour à Taïwan, où une élection présidentielle et législative se tient aujourd'hui. 19 millions d'électeurs à quelques encablures seulement de la Chine qui menace d'envahir l'île si elle devait proclamer son indépendance. La présidente démocrate Tsai Ing-wen est grande favorite face à son adversaire Ran Kwai-wu, favorable lui à un rapprochement avec Pékin. La situation à Hong Kong s'est invitée dans ces élections sensibles. À Taïwan, notre envoyé spécial Dominique André.
L'île de Taïwan peut-elle devenir comme Hong Kong? C'est la question qui inquiète les sympathisants de Tsai Ing-wen. La présidente qui brigue un deuxième mandat a vu sa cote remonter dans les sondages depuis les grandes manifestations de la population hongkongaise. Min Lin Kao de l'équipe de campagne de Tsai Ing-wen.
Je pense que nous, ainsi que beaucoup de nos sympathisants et aussi le peuple taïwanais en général, sommes tous inquiets que Taïwan puisse connaître le même sort que Hong Kong. Certains disent même aujourd'hui Hong Kong et demain Taïwan. L'inquiétude est visible, surtout chez les jeunes, pour qui Taïwan est déjà un pays souverain. La situation de Hong Kong est préoccupante car elle peut laisser présager que la Chine pourrait utiliser la force militaire contre Taïwan pour en faire une de ses provinces. C'est pour cette raison que les jeunes ont peur que la situation de Hong Kong se propage à Taïwan et qu'ils rejettent le concept « un pays, deux systèmes ».
L'autre grand parti, le Kuomintang, balaie ses craintes pour le parti d'opposition favorable à un rapprochement avec Pékin. C'est au contraire l'attitude de Tsai Ing-wen, hostile au régime chinois, qui met en danger Taïwan sur le plan économique et politique. Mais ces arguments n'ont pas l'air de convaincre les jeunes Taïwanais.
Dominique André à Taïwan pour France Culture.
France Culture 8h06, suite du journal. Il faudra encore attendre pour connaître les mesures promises par Édouard Philippe.
Oui, sur le dossier des retraites, à l'issue d'une journée de consultation hier avec les syndicats sur cette réforme à Matignon, le chef du gouvernement a déclaré hier soir qu'il enverrait ses propositions par écrit, ce matin, aux organisations syndicales. Que peut-il y avoir dans ces propositions? On écoute Édouard Philippe.
Des propositions concrètes qui pourraient être la base de ce compromis. Elles porteront ces propositions notamment sur les objectifs et les modalités de la conférence de financement qui a été évoquée par un certain nombre de responsables d'organisations syndicales et dont j'ai indiqué qu'elle me paraissait être une excellente idée.
Édouard Philippe, des propos qui ne sont pas de nature à stopper le mouvement de contestation le plus long de l'histoire en France pour un mouvement continu. Alors qu'hier, le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, a répété que l'âge pivot devait être sorti du texte. L'âge pivot, un sujet crucial pour les syndicats réformistes, mais pas pour ceux de l'intersyndicale qui réclament un retrait pur et simple de la réforme et qui appellent aujourd'hui à une 5e journée nationale de mobilisation. C'est la première fois qu'une telle journée se tient un samedi et l'objectif, c'est d'élargir le mouvement, Anne-Laure Jumé.
Rallier les salariés du privé et faire de cette journée une grande manifestation populaire, voilà l'enjeu pour les syndicats opposés à la réforme. Il faut maintenir la pression sur le gouvernement et même l'accentuer, explique Fabrice Angéhi, secrétaire confédéral de la CGT.
C'est pour bien montrer qu'on est loin d'un essoufflement, on est loin d'une mobilisation qui n'est pas soutenue, donc il y a un fort soutien. Et donc c'est pour monter d'un cran à la mobilisation dans l'entreprise et dans la rue. Et donc voilà, c'est un test. On va voir si le samedi, la population en général est prête à investir 2 ou 3 heures de son temps pour soutenir le mouvement.
Et en choisissant le samedi pour cette 5e journée de mobilisation, la CGT et les autres syndicats espèrent bien mobiliser un secteur privé qui a du mal à faire grève.
Moi, j'ai des exemples de salariés qui sont venus nous trouver, qui nous ont dit leurs difficultés de pouvoir se mettre en grève, les pressions qu'ils ont eues par l'encadrement en disant « vous ne pouvez pas faire grève », etc. Ou si vous faites grève, vous ne retrouverez pas votre travail. Ou on a eu le chantage aux primes, par exemple.
Et l'intersyndicale a déjà prévu de mobiliser à nouveau la semaine prochaine avec de nouvelles actions mardi, mercredi et jeudi prochain.
Anne-Laure Jumé, le Premier ministre devait s'entretenir hier soir avec Emmanuel Macron sur le sujet des retraites. Alors que le parquet de Paris vient d'ouvrir une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique après la diffusion d'une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, des images de la manifestation de jeudi contre la réforme des retraites. On y voit ce qui semble être un tir de LBD, lanceur de balles de défense, quasiment à bout portant sur un manifestant. Selon Sébastien Rocher, chercheur au CNRS et auteur du livre De la police en démocratie, cette nouvelle mise en cause des forces de l'ordre impose une reconnaissance par l'exécutif de cette situation qui s'aggrave.
Ça fait beaucoup d'éléments qui devraient inciter le gouvernement à reconsidérer considérablement les techniques de maintien d'ordre, la formation et aussi la manière dont ils contrôlent les personnels. On a un problème en France, je crois que c'est clair. Maintenant, c'est difficile de ne plus le voir. Il y a tellement de témoignages à travers les médias sociaux qui sont des témoignages filmés, qui ne sont pas juste des dires, que je crois qu'il n'est plus tellement raisonnable de faire comme si il n'y avait plus de problème. Cela dit, la France n'est pas au niveau de violence policière de pays dans lesquels la police a pour fonction d'éliminer physiquement l'opposition politique. C'est pas ça la situation, mais il y a bien une dégradation des relations police-population.
Les propos cueillis au micro de Fabrice Rigobert. De son côté, la préfecture de police de Paris estime que cette vidéo est parcellaire et sortie de son contexte. Bonjour Jean-Pierre Chevènement.
Bonjour.
Vous êtes l'invité des matins du samedi, vous étiez vous-même ministre de l'Intérieur. Il y a un problème sur la sécurité en France aujourd'hui et dans les manifestations?
Il y a un problème de violence dans la société. La société est devenue beaucoup plus violente par étapes. Mais cette violence, elle est d'abord dans la société. Je rappelle que la police est chargée de maintenir l'ordre public. Elle est chargée de faire prévaloir la tranquillité publique. Alors, je ne sais pas, il y a un film qui a été pris, qui tourne sur les réseaux sociaux. Le parquet a ouvert une enquête préliminaire. Il faut que la justice se prononce parce que naturellement, la police est astreinte à une déontologie, à des règles. Les ripostes à la violence des manifestants plausibles doivent être proportionnées. Est-ce que là, elle est proportionnée? Donc il faut que cette enquête suive son cours. Ensuite, c'est au ministre de l'Intérieur et au préfet de police de cadrer l'action de police. Mais je voudrais quand même rappeler qu'il y a eu 16 policiers blessés au cours de la manifestation d'hier. C'est beaucoup moins qu'en d'autres circonstances. Mais on ne peut qu'être très préoccupé du fait que la police est désignée comme l'ennemi à battre. Je rappelle qu'il y a 5 ans, on applaudissait les policiers, que le métier de policier demande du courage, même pour les bacs, quand on fait du saut dessus sur des...
Depuis, il y a eu aussi les gilets jaunes et beaucoup de mises en cause aussi.
Alors, bien sûr, il y a eu beaucoup de mises en cause, mais parmi les gilets jaunes, il y avait des groupes totalement incontrôlés, venus quelquefois de l'étranger, ce qui a obligé à revoir la doctrine de maintien de l'ordre.
Merci Jean-Pierre Chevènement, vous restez avec nous pour votre interview juste après ce journal avec Caroline Brouet. Le grand oral d'Emmanuel Macron a eu lieu hier soir sur le climat. Le chef de l'État a échangé avec les 150 Français de la Convention citoyenne sur le climat, chargés de faire des propositions d'ici fin avril pour réduire d'au moins 40% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 dans un esprit de justice sociale. C'est la lourde question à laquelle doit répondre cette convention. Le président de la République a indiqué qu'il souhaitait, sur quelques mesures, en appeler à un référendum. Véronique Robérot était sur place.
Qu'est-ce qu'on met derrière le sans-filtre? Que ce soit pas manipulé derrière le rideau par des gens qui ont des intérêts cachés ou autres. Bah c'est simple, vous avez mon engagement là-dessus. Maintenant, pour être clair, plus c'est précis, clair et détaillé, plus ça peut être sans-filtre. C'est-à-dire si c'est juste une idée ou une intention, quelque part vous la remettez à des gens qui devront la mettre en musique. Et donc, il y aura un filtre, celui des gens qui la mettent en musique. Et ces gens-là, je ne les qualifie pas, parce que ce sont les administrations, les parlementaires. Et moi, je ne nourris pas la défiance à l'égard ni de l'administration, ni des parlementaires de notre pays. Ils sont aussi dignes que vous et moi. Mais il y aura un filtre qui sera le filtre de leur travail.
Emmanuel Macron s'est aussi déclaré en faveur d'un référendum sur certaines propositions, référendum indicatif ou décisionnaire. Grégoire Decamp a été convaincu par la prestation du chef de l'État.
On nous a bien quand même rassuré, on pourra accéder au référendum, potentiellement modifier la Constitution si c'était bien, si c'était bien cadré. Après, oui, bien sûr, il y a quand même beaucoup de travail à faire. Il nous a bien dit le boulot devrait être fait et bien fait. Donc, à nous de travailler maintenant.
Beaucoup moins d'enthousiasme du côté de Yolande du Finistère.
Il est venu, tout le monde est content, tout le monde fait son selfie. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on sait de plus? Rien. On sait que, de toute façon, ça passera sous son nez et il regardera, il donnera son avis et c'est lui qui décidera.
Pour moi, pour l'instant, c'est du baratin, ça. Depuis son début de mandat, qu'est-ce qu'il a fait au niveau écologique? Rien.
Les travaux de la Commission citoyenne sur le climat doivent se poursuivre jusqu'en avril prochain.
Véronique Robérot. Un numéro d'appel d'urgence à destination des étudiants précaires a été mis en place hier. C'est l'un des outils qu'avait proposé Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, après les manifestations étudiantes de novembre dernier. Des manifestations en hommage à un étudiant stéphanois qui avait tenté de s'immoler devant un bâtiment du Crous. Ce numéro devrait permettre aux étudiants précaires de mieux connaître leurs droits. Reportage à suivre à 9h sur France Culture. Du soleil sur le nord, les Alpes et le long de la Méditerranée. Partout ailleurs, un temps sec mais dominé par des nappes de brume ce matin sur les deux tiers du pays, au nord d'un axe qui s'étend du sud de la Bourgogne jusqu'à la région bordelaise. Mais le soleil devrait faire de belles percées presque partout au fur et à mesure de la matinée. Les températures ce matin sont comprises entre moins 1 et 10 degrés, avec moins 1 degré à Clermont-Ferrand, 2 degrés à Belfort, 4 à Paris, 5 à Nantes et Bordeaux, 6 à Lyon, 7 à Marseille et maximum 10 degrés à Nice.